Blanche, large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Caroline Vimin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice de la Fondation Hirondelle, fondation de journalistes qui, à travers le monde, depuis 30 ans, c'est pour ça qu'on se voit, amène un savoir-faire, amène une philosophie aussi de l'information dans des pays en crise, dans des pays qui en ont un furieux besoin. 30 ans, je l'ai dit, on va parler de cet anniversaire, on va parler de vos missions également. Vous m'avez donné rendez-vous devant la cathédrale de Lausanne. Alors le ciel est un peu gris, mais la vue est tout de même spectaculaire. Et puis, juste en face de la cathédrale de Lausanne, il y a un musée. Et ce musée a une signification en ce moment pour vous.
Oui, tout à fait. C'est le musée historique de Lausanne qui a une exposition sur la recherche de la vérité et le rôle du journalisme. Et ben, en tout cas, je pense que moi, ça ne fait pas 30 ans que je suis à la Fondation, ça fait 21 ans, mais c'est la première fois que je vois une exposition grand public sur la question du journalisme. Et c'est peut-être le reflet de beaucoup de questions qui se posent aujourd'hui dans la société sur ce métier, ce rôle des médias, et je salue qu'il y ait cette exposition publique.
Voilà, elle est là encore jusqu'au 2 mars à Lausanne. C'est une exposition itinérante. Elle est déjà passée à Martigny d'ailleurs. Hein, c'était en 2023. Elle est déjà passée en Valais. Bon, l'interrogation sur la vérité, la post-vérité, la vérité alternative, c'est bien dans notre temps. On va évoquer évidemment hein, la nouvelle donne avec l'élection de Donald Trump, notamment dans nos pays occidentaux, mais aussi sur le reste de la planète. Mais on va s'intéresser un petit peu. À vous, 20 ans, plus de 20 ans maintenant à la Fondation Hirondelle, c'est quoi votre parcours pour arriver dans ce qu'on appelle l'humanitaire ?
Alors, j'ai un parcours qui me fait rentrer dans le monde du développement et de l'humanitaire par la gestion de projets. J'ai fait des études de sciences politiques et de relations internationales. J'ai commencé à travailler dans ce secteur de la gouvernance et des droits humains aux États-Unis, dans une fondation qui organisait du soutien aux élections, à l'observation électorale. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai rencontré la Fondation Hirondelle, parce qu'on préparait les élections au Zaïre, on l'appelait encore comme ça à l'époque, qui est devenue la République démocratique du Congo depuis. Et la Fondation y créait avec les Nations Unies Radio Okapi, qui est vraiment une radio de service au public et assez exceptionnelle dans son impact pour la population congolaise. Donc je ne suis pas journaliste, mais j'ai toujours été intéressée évidemment par l'actualité, par les relations internationales, et c'est par la gestion de projet pour Radio Okapi que je suis arrivée à la Fondation en 2003.
Radio Okapi, c'est une radio que je connais bien. Moi, j'y ai passé quelques années de ma vie, hein, en République démocratique du Congo, justement. Ça a été une espèce d'ovni, hein, cette radio, à la fois dans le système des Nations Unies, un système lourd, bureaucratique, et puis avec la petite pépite de la Fondation Hirondelle qui venait amener un savoir-faire qui était inconnu jusqu'alors dans les radios des missions des Nations Unies.
Hein. Tout à fait. C'était un laboratoire, je pense, aussi bien pour les Nations Unies que pour la Fondation Hirondelle. Les missions de maintien de la paix des Nations Unies avaient des radios, il y en a eu les premières au Cambodge, à d'autres endroits, mais elles n'avaient pas forcément cette mission que la Fondation Hirondelle a beaucoup portée, d'être au service de la population avant d'être au service des Nations Unies et de faire simplement la communication des Nations Unies. Donc c'était un peu David contre Goliath.
Il y a un truc de très clair hein, dans les missions des Nations Unies, c'est que les missions de maintien de la paix, hein, ce qu'on appelle maintien de la paix, ça arrive dans un pays en crise où les populations ne savent plus vers quelle vérité ou en tout cas vers quelle information se tourner, elle est toujours partisane et puis très vite les radios des Nations Unies deviennent une radio parmi les autres, partisane également parce qu'elle suit l'agenda des Nations Unies. Ça s'est pas passé comme ça avec Radio Okapi, ça a été une parenthèse un peu enchantée, hein. D'ailleurs la situation du Congo aujourd'hui est pas très bonne et peut-être Radio Okapi a perdu un petit peu ce sens-là, peu importe, mais cette idée que quand on écoute une radio qui fait vraiment de l'information et pas simplement de la communication, eh ben ça peut apaiser des tensions fortes.
Non seulement ça apaise des tensions, ça crée un espace de dialogue qui est essentiel. Et je pense qu'un des facteurs de Radio Okapi à l'époque qui était dans le contextuel, hein, c'est que ça a réuni les Congolais. Le Congo, c'est un pays immense. On dit souvent c'est de la Bretagne à la Russie, un pays continent. Et il n'y avait pas moyen pour les Congolais de se parler, de se réunir. Et il y a eu cette réunion par les ondes. Et ça, c'est aussi la force du média radio. Donc, il y avait cette capacité à rassembler les Congolais, à parler à tout le monde parce qu'on travaillait dans plusieurs langues et à créer cet espace de dialogue.
avec on va parler d'abord de la naissance, hein, parce que ça, c'est un peu avant Okapi, justement. Hein. L'origine de la Fondation Hirondelle, il y a 30 ans, ça nous fait 1995, le génocide rwandais 1994, c'est vraiment ça. Et le rôle de la radio dans le génocide, d'ailleurs, hein, qui a été l'étincelle.
Effectivement, en fait, il y a un premier média de Hirondelle avant la création de la Fondation Hirondelle. Et ce premier média, c'est une radio qui s'appelle Radio Agatashia, qui veut dire Hirondelle en Kinyarwanda, et qui est la réponse, le sursaut de trois journalistes suisses qui couvrent le génocide rwandais, qui sont évidemment bouleversés par cette souffrance et qui ont vu aussi à la fois la manipulation de l'information, donc c'est notamment le travail de la radio Mille Collines à l'époque, mais aussi comment l'absence d'information après le génocide pour les populations qui étaient déplacées, qui étaient vraiment perdues, provoquait encore plus de malheur et de souffrance. Donc il y a cette radio qui est créée, un peu là aussi un ovni, parce que la première priorité pour beaucoup d'humanitaires, c'était de s'assurer que les gens aient de quoi manger, de quoi dormir, des accès à la santé. Puis je pense que la vision de la Fondation à l'époque est assez unique et qui est aujourd'hui reconnue, c'est que l'information aussi dans ces moments-là est un élément essentiel.
Essentiel et capital pour la tranquillité, enfin si elle est possible, mais en tout cas une certaine tranquillité des populations concernées. Vous êtes passé un peu vite sur Mille Collines, hein. C'était vraiment une radio de haine, on a parlé de radio de paix ensuite, radio de haine, très concrète, hein. Aller chercher tel et tel, il se trouve à tel et tel endroit, c'était un peu le télécrochet du meurtre, quoi.
Oui, il faut se remettre aussi, il y a 30 ans, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc, ce qui aujourd'hui fait un écho et peut être diffusé, tous ces messages de haine, ces messages partisans qu'on trouve sur les réseaux sociaux, en fait, ça existait déjà à l'époque, mais ça utilisait les moyens de communication de l'époque. Donc, la radio était au service du pouvoir à l'époque et effectivement a diffusé des messages de haine, des appels à la haine, des appels au meurtre.
Alors, de cette initiative de trois journalistes qui se trouvent là-bas, qui font quelque chose de petit, à entrer dans le monde, parce que c'est un monde, hein, de l'humanitaire, avec ses procédures, ses recherches de fond, etc. C'est très complexe. J'imagine que ça ne s'est pas fait en deux semaines. Mais voilà, on table sur le début du 21e siècle pour la Fondation Hirondelle, acteur, actrice dans le monde des médias humanitaires, quoi.
Oui, puis en fait, ça correspond aussi à la création du secteur du développement des médias et de l'appui aux médias, qui est un secteur qui commence à émerger avec la chute du mur de Berlin, puisque là, on voit la création d'espaces démocratiques, la libéralisation des partis politiques, donc des médias, de la pluralité des idées. Et le secteur du développement des médias, il date de cette période-là. Donc la Fondation Hirondelle, elle se crée à ce moment-là. Le secteur émerge. Et puis ce secteur des médias, il est à mi-chemin entre l'action humanitaire et l'action du développement. Parce qu'en tant que crise, il donne vraiment une information tout de suite maintenant essentielle aux populations, mais il construit aussi. Il construit des opinions, il accompagne le développement, et il peut accompagner l'inclusion, la cohésion sociale. Donc c'est vraiment... C'est pour ça que c'est un droit fondamental. C'est que tous les jours, il y a besoin d'une information, qu'on soit en train de vivre une crise, qu'on soit en train de se développer.
Alors, Radio Okapi, ça a été un ovni, je le disais, dans le monde des radios des Nations Unies, mais aussi pour vous, j'imagine. C'était un projet gigantesque, une énorme radio nationale, hein, sur un pays continent, comme vous l'avez dit. Ça a été une exception dans l'aventure d'Hirondelle. Qu'est-ce que c'est votre cœur de cible, finalement? C'est plutôt des petits projets beaucoup plus agiles. Hein.
Alors, aujourd'hui, ça l'est. Pendant longtemps, en fait, créer des radios, c'était un des seuls moyens en mode opératoire, parce qu'il y avait peu de médias. Comme j'ai dit, il faut vraiment attendre l'ouverture de la chute du mur de Berlin pour voir des médias émerger et qui veulent et qui embrassent ces notions de liberté, de médias indépendants, de médias d'intérêt général. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de médias qui existent, donc notre approche est plutôt de soutenir des médias existants. Il n'y a plus forcément besoin de créer des radios ou des sites internet ou des télévisions. Les journalistes veulent pouvoir travailler dans des bonnes conditions, mais ce n'est pas souvent possible. Et donc, on essaye plutôt de mettre en place les conditions pour que cette information puisse être produite et à disposition des populations.
Donc, si je vous entends, soutien matériel, soutien financier, soutien en formation et en savoir-faire également ?
Oui, bien sûr. Ça, c'est le cœur. Il faut qu'on ait une valeur ajoutée au niveau éditorial. Ça peut être... parfois, il faut quand même remettre à niveau en termes de formation de base, d'éthique journalistique. L'approche de la Fondation Hirondelle, ce n'est pas nous qui l'avons inventée, mais elle se base sur les faits. Donc, vérifier des faits, sourcer les informations. Et puis, la pluralité. Donc, donner différents points de vue. Et quand on est dans des contextes fragiles, qui sortent de conflits avec beaucoup de polarisation, ne pas enfermer les gens dans leurs propres idées, mais au contraire, entendre les autres points de vue, chercher des consensus, des solutions, pas les imposer, mais donner aux médias ce rôle d'espace de dialogue.
Je suis allé regarder la carte de la Fondation Hirondelle, il y a pas mal de projets en Afrique, il y en a encore au Congo d'ailleurs, hein, même si pour la Fondation l'aventure au Capi est terminée, mais il y a encore des tas de radios communautaires que vous soutenez. Il y a aussi l'Ukraine, vous faites quoi en Ukraine ?
En Ukraine, on y est depuis la grande invasion, donc depuis 2022, on soutient des médias très locaux, dans la première partie de ce soutien ont dû être dans une phase de survie, soit relocalisés parce qu'ils étaient attaqués sur la ligne de front, et donc ils ont dû pour certains se réinstaller ailleurs, voire complètement modifier la façon dont ils travaillent. Et je pense à des télévisions qui aujourd'hui se sont mises soit sur du journal papier, soit sur un média en ligne. Et puis là aussi c'est d'accompagner ces journalistes à repenser la relation à la population. C'est quoi les besoins d'information des Ukrainiens et des Ukrainiennes aujourd'hui ? Et c'est pas que la guerre, en fait. Effectivement, il y a l'invasion, il y a la guerre, mais il y a aussi le quotidien, être au plus proche des préoccupations. Il y a toujours des rentrées scolaires, il y a toujours des questions de santé, il y a toujours des questions de comment on fonctionne au quotidien. Et puis ces médias locaux, ils répondent à ça aussi.
Pas facile d'être journaliste hein, dans un pays en guerre. Alors il y a Gaza, on a des chiffres incroyables de nombre de journalistes palestiniens qui ont été ciblés, c'est documenté. Dans tous les conflits, et la Fondation Hirondelle a porté le deuil de nombreux journalistes, c'est un déchirement.
Oui, et alors moi ce qui m'inquiète aussi, c'est que dans les contextes de guerre, donc il y a des journalistes qui sont victimes parce qu'ils sont journalistes, mais même dans des contextes où on ne pense pas forcément à un conflit violent. Je pense au Mexique, à l'Inde. Il y a eu des assassinats de journalistes en Europe, à Malte. Donc c'est vraiment de vouloir faire taire ces faits. Moi, je ne parle pas forcément de vérité, parce que je pense que ce qui est important, c'est de poser les faits. Et puis, la sécurité, c'est un des enjeux primordiaux. Et c'est aussi pour ça que nous, on n'est pas dans certains contextes, parce que c'est trop dangereux.
J'ai vu dans vos valeurs d'ailleurs que la sécurité de vos personnels est une valeur essentielle. On n'est pas sur le conflit parce qu'il faut être sur le conflit, il faut que la sécurité soit garantie. Mais je pense que dans le monde humanitaire, c'est assez partagé. On va se retrouver dans un instant pour la deuxième partie de cette émission. A tout de suite.
Large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Caroline Vimet, on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission. On a évoqué la naissance et un peu le rôle de cette Fondation Hirondelle qui célèbre ses 30 ans en 2025. On va revenir un peu sur ce que vous allez faire cette année des 30 ans. Mais j'aimerais votre œil sur l'état du monde quand même. Hein, parce qu'on a parlé là de pays en crise, de pays en guerre, assez vite dans le cerveau de pays du Sud, c'est-à-dire en développement ou du Sud global, comme on dit aujourd'hui, pour amener une certaine rigueur dans la formation, certaines notions de, vous l'avez dit, du recoupement des sources, etc. On pourrait se regarder un peu le nombril aussi dans nos pays occidentaux. Hein, le journalisme soit dérive, soit est en péril, soit les deux.
Alors, je ne sais pas lequel a entraîné l'autre. Est-ce que c'est le péril ou la dérive? Mais le secteur des médias est en crise au niveau global. Il y a une triple crise. Il y a une crise du modèle économique, qui affaiblit les rédactions, qui empêche une indépendance éditoriale et qui fait que peut-être certaines des valeurs en termes de vérification, de prendre son temps, ne sont plus possibles parce qu'on a moins de moyens. Et cette crise économique, elle est liée au deuxième élément qui est la digitalisation, le fait que ça se passe maintenant en ligne, sur des réseaux sociaux. Les médias ne sont pas maîtres de ce qui est diffusé, ils ne sont pas maîtres des revenus qui sont faits sur ces réseaux sociaux. sociaux, donc ils sont complètement captifs de ce système. Et puis la troisième crise, c'est cette crise de confiance. Les médias, je pense, sont victimes de ce sentiment assez partagé et sûrement légitime en partie qu'il y a une déconnexion entre des décideurs ou ceux qui savent et puis la réalité. Et donc, les médias doivent aujourd'hui se remettre en cause, être vraiment au service des populations. Et cette crise de la confiance, pour moi, c'est celle-là qu'il faut traiter en premier. Parce que si la confiance revient, ben ensuite, peut-être que les abonnements, peut-être qu'un retour des audiences vers les médias se fera.
Vous sentez une différence dans l'appréciation de ce que vous pouvez faire sur le terrain? J'ai rappelé que j'ai travaillé un peu pour la Fondation Hirondelle il y a 20 ans. On avait quelque chose de sûr dans notre sac à dos. Hein. On arrivait dans des pays où on pouvait dire, voilà, en vérifiant l'information, en faisant une information sûre, en faisant une information honnête, on peut avoir un système qui marche. Regardez chez nous, en Europe. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus dire ça. Hein.
Non, on ne peut plus dire ça. Et justement, je pense qu'il faut... Pour moi, il ne faut pas dire c'est un modèle européen ou un modèle occidental. Il faut revenir sur les fondamentaux déjà du droit, donc d'un accès à une information, du droit à une information fiable, ne surtout pas être donneur de leçons et aussi montrer, par exemple en Centrafrique, on a Radio Ndekeluka depuis 25 ans. Alors, le pays va de crise en crise. Je ne dirais pas qu'il va mieux grâce à la radio, mais la radio jouit aujourd'hui d'un taux d'audience et d'un taux de confiance assez incroyable. On est à plus de 70% des gens qui nous écoutent et qui nous font confiance, donc c'est possible.
C'est une petite note d'espoir. Je reviens ce monde humanitaire, hein, dont l'un des principaux défis, comme partout, c'est les sous. Il faut en trouver. C'est extrêmement complexe. Hein. On croit qu'il suffit d'envoyer un tout ménage et que le fric tombe. Mais non, il y a des tas de procédures, y compris pour toucher de l'argent public. Et puis alors, il y a un acteur important dans ce monde-là, c'est les États-Unis qui ont énormément financé des projets humanitaires, pas seulement dans les médias, évidemment, dans toutes sortes de domaines. Il y a une structure, la DDC américaine, ça s'appelle USAID, hein, USAID en français. C'est coupé. Trump est arrivé et quick.
Parmi la centaine d'executive orders qui ont été signés le 20 janvier, il y a cet executive order de suspendre le temps d'une évaluation et d'un audit toute l'aide internationale américaine, le temps de vérifier que ça correspond aux intérêts des États-Unis et de la présidence. Et donc concrètement,
je souligne la présidence, hein, ouais, c'était exprimé clairement, c'est écrit pas noir seulement sur l'intérêt blanc des États-Unis.
Non, ouais. Ça c'est un vrai virage en termes de politique américaine. Et donc le 24 janvier, les organisations qui soient américaines qui recevaient des financements ou alors directement les organisations locales, je pense à des médias ukrainiens, des médias au Moyen-Orient, des médias en Amérique latine qui étaient financés par l'aide américaine, ont reçu une notice soit de suspension de leur contrat, soit carrément de résiliation du jour au lendemain.
Ça c'est incroyable, hein. On ne se rend peut-être pas bien compte vu, quand on l'écoute vu d'ici. Vous citez des cas dans le monde des médias, il y a des dizaines de milliers non seulement d'employés américains qui ne savent pas s'ils vont continuer à avoir un job dans 30 ou 90 jours, et des dizaines de milliers de personnes concernées par les projets. Hein.
Au-delà du secteur des médias, vous parliez de l'humanitaire. Le premier bailleur de fonds de l'action humanitaire, je pense, qui finance le CICR. Les États-Unis étaient un des bailleurs principaux du CICR. Cette aide-là est coupée.
C'est pas votre cas. Il y a
c'est pas notre cas. Nous, on n'avait pas de fonds.
Mais ça peut donner des idées. Ça peut donner aussi. On voit très bien que les gouvernements se tournent vers les États-Unis et que il y a une certaine licence tout à coup qui peut apparaître chez ceux qui ont l'idée de fermer un peu les services publics. Ça peut arriver très vite. La contamination, on va dire.
Tout à fait. Je pense que c'est ce qui est à retenir de comment. Un pays peut influencer ensuite, surtout celui-là, des politiques qui peut-être aujourd'hui hésitent, se disent non quand même, on va pas faire ça, on peut pas juste tout arrêter du jour au lendemain. Puis si les États-Unis l'ont fait, le boulevard est ouvert. Hein.
Dans les risques qui planent sur la Fondation, on va parler un petit peu de votre stratégie que vous revoyez constamment, ce que vous entendez faire. Ce risque-là de la coupure, il est en lettres de feu au-dessus du bureau.
Oui, parce parce que comme vous l'avez dit, nous, on s'appelle Fondation Hirondelle, mais on n'est pas une fondation avec nos propres fonds. On n'est pas une fondation qui peut s'autofinancer. Mmh. Donc moi, une grande partie de ma responsabilité et de mon temps, c'est de convaincre des bailleurs, publics ou privés, de nous faire confiance, de soutenir nos projets. En Suisse, on est partenaire de la DDC, on est déjà sous des coupes suite au vote du Parlement du budget suisse.
Les coupes budgétaires,
qui ont touché tout le monde, dont la coopération internationale. En 2024, c'était la Suède qui décidait de tout arrêter. On ne sait pas ce qui va advenir avec la nouvelle Commission européenne. Donc, effectivement, l'environnement international au niveau bailleur public, il n'est pas favorable. Donc, on se diversifie, on va voir les fondations privées, on essaye d'aller voir des individus mécènes qui croient en cette information, qui veulent soutenir ces médias. On essaye aussi de convaincre monsieur et madame tout le monde. Ça, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en général, et ça, d'autres ONG sont mieux placées que nous pour le savoir, les dons aussi individuels baissent.
Oui, ça, c'est une constante, en effet, dont on entend parler. Hirondelle.org, hein, pour aller sur le site de la Fondation.
C'est
toujours org.
C'est toujours .org.
Bon, on va essayer d'être un peu positif. Hein. Ouais. J'ai dit, vous voyez votre stratégie tous les 4 ans. Ça, je l'ai appris. Alors, j'imagine que les fondamentaux ne changent pas, mais qu'est-ce que vous... Parce que là, on y est. C'est 25-27, la stratégie. Qu'est-ce que vous... 28. Quels sont vos angles?
Ouais, alors ça c'est très motivant et on est toujours très très engagés et toute l'équipe est solidaire. On a 3 axes de développement. Bah, le premier c'est de continuer à diversifier notre offre, donc que ce soit dans les contenus, donc d'aller vers encore plus d'émissions de magazines qui sont pas que l'actualité, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir parfois un sentiment de fatigue de la part des auditeurs, des auditrices, donc être au service des besoins, et puis cette offre aussi l'avoir sur plusieurs plateformes. Alors ça va rester la radio, ça reste pour nous un média privilégié, mais il y a aussi des offres digitales, etc. Le deuxième axe, c'est de développer nos partenariats avec encore plus de médias qui partagent nos valeurs, et notamment dans d'autres régions, que ce soit en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient. Et le troisième axe, c'est de continuer à développer ce qu'on a démarré il y a une dizaine d'années, c'est le partenariat avec des chercheurs et le monde académique. Nous-mêmes, on ne produit pas de recherche, mais on est l'objet de recherche et de pouvoir faire des études scientifiques sur l'impact des médias, sur les approches, ce qui marche, ce qui ne marche pas.
Aujourd'hui, comment ça se passe? Vous prospectez, on peut avoir cette image, hein, vous regardez, ah tiens, il y a un conflit qui s'ouvre quelque part, on va voir si on peut y faire quelque chose, pas forcément de façon cynique d'ailleurs, hein, c'est pas du tout mon objet, mais on suit l'actualité, vous êtes allé en Ukraine, c'est bien que quelque chose s'y est produit, c'est comme ça que ça marche?
Alors il y a plusieurs approches, il y a effectivement d'être réactif, par exemple en ce moment on évalue la possibilité d'aller en Syrie, pour voir quel est l'état du secteur médiatique là-bas, quelles sont les intentions des acteurs médiatiques, des nouvelles autorités. Donc on est réactif par rapport à une activité, par rapport à une actualité, pardon. Et puis il y a aussi, de par les endroits où on est déjà, d'anticiper des développements. Donc on est très présent en Afrique de l'Ouest, notamment avec le Sahel, Mali, Niger, Burkina. Ça nous a permis de commencer un nouveau projet au Tchad, d'être au Bénin, de commencer un nouveau projet en Guinée-Bissau, de regarder le Togo, parce qu'on a cette connaissance assez fine des contextes et de la réalité.
Je parlais tout à l'heure de l'exemple, hein. Je me suis trouvé un peu néocolonial d'ailleurs en disant ça, le bon exemple européen, etc. J'ai un autre angle de cette question-là qui est l'image de l'Occident, hein, à travers les conflits récents, l'Ukraine, la Palestine, le fameux deux poids, deux mesures. Est-ce qu'on est encore crédible quand on arrive comme Suisse, donc comme occidental, dans des pays dits du sud global qui commencent à comprendre que leur propre intérêt, il faut qu'ils le défendent eux-mêmes et pas forcément avec nos valeurs?
Alors, je pense que la crédibilité, elle se gagne par l'approche. Donc, si il y a un partage...
Il faut quand même aller convaincre le gouvernement de nous laisser travailler.
Oui,
hein.
Oui, oui. Alors, mais le gouvernement, il a aussi parfois intérêt à avoir de l'aide, malgré ce qu'il pense. Et je pense que dans ces cas-là, être suisse, c'est pas forcément être vu comme un autre occidental. Donc ça, pour nous, c'est une vraie carte et un vrai atout. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais c'est un plus. Et puis vis-à-vis des populations, parce que c'est quand même elles qui doivent nous accepter. Encore une fois, c'est pas des Suisses qui sont à l'antenne, c'est des journalistes maliens, nigériens, burkinabés. Donc eux, ils se retrouvent. Ils ont quelque chose qu'ils n'avaient pas avant, qui correspond à leurs besoins. Et il n'y a pas de sentiment de néocolonialisme ou d'une nouvelle intrusion.
30 ans, ça se célèbre, même si le monde est un peu maussade. Y aura notamment le Salon du Livre.
Oui, on sera au Salon du Livre de Genève avec une exposition photo au mois de mars pour retracer un peu l'ensemble de nos activités et de cet engagement pour la liberté d'expression. Nous serons aussi normalement le 3 mai ici à Lausanne, c'est un samedi, donc le 3 mai c'est la journée internationale de la liberté de la presse, c'est une journée qui a été une de ces journées des Nations Unies, et comme c'est un samedi on s'est dit bon, on va aller voir les gens, ils sont dans la rue, ils font leurs courses, ils font leur marché, on aura un stand avec RSF et le Club Suisse de la Presse, puis on essayera d'échanger avec la population sur les médias, sur la désinformation, sur le rôle de l'information intègre.
Et puis tout un cycle de conférences aussi qui aura lieu autour de votre travail et du rôle des médias dans la construction de la paix. Ça sera à Genève, à Lausanne, à Lugano et à Berne pour l'instant, c'est ce que j'ai vu. Tout ça, on le retrouve évidemment sur votre site internet hirondelle.org. Merci à vous, Caroline Vimin.
Merci beaucoup.